Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité. À chaque épisode, je reçois un parent, un jeune ou un professionnel afin d'échanger en toute liberté sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le sujet de l'autorité parce qu'on que soit jeune, parent, professionnel, c'est un sujet sur lequel il y a plein de choses à dire. Et pour ce faire, je vous présente tout de suite mon plateau avec Magda. Comment tu vas ?
Bonjour, ça va très bien, je te remercie.
Tu vas bien, tu veux bien te présenter ?
Bien sûr. Écoute, merci pour l'invitation. Je suis donc Magda Chouini, qui vient de la ville de Stain, en Seine-Saint-Denis. Et je suis maman de 5 enfants et je dirais représentante associative.
Merci Magda. Entre autres. On va faire connaissance ensemble. Et puis Benjamine, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vue par ici.
Mais ouais, ça faisait presque un an que je n'étais pas venue dans ce superbe studio que les auditeurs ne voient pas, mais qui est magnifique.
C'est vrai. C'est
comment
vrai.
Tu vas ?
Ça va bien et toi, Amine ?
Ouais, ça va. Tu veux bien te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore ?
Alors, donc moi, je suis Benjamine Veil. Comment me présenter ? Ouais, je suis philosophe de formation. J'interviens dans le secteur social et médico-social, essentiellement en protection de l'enfance. Parce que maintenant, j'accompagne les équipes autour des situations complexes. Je fais ce qu'on appelle de l'analyse des pratiques, de la formation sur les questions notamment d'autorité, de comment faire autorité sans être autoritaire.
Ouais, c'est un peu toi qui nous a soufflé justement la thématique. Anne, comment tu vas ?
Ben, ça va.
Est-ce que tu veux bien te représenter, même si tout le monde te connaît et que tu aimes retourner les tasses ?
Non, donc Anne, cofondateur d'une entité qui s'appelle Soparks. Et à côté de ça... On peut me voir un peu partout sur la toile à dire souvent des bêtises.
Pour commencer, si je vous dis autorité, qu'est-ce qui vous vient en tête comme ça, de façon assez spontanée ? Quand vous entendez autorité, évidemment, c'est Benjamine qui termine. Hein ?
Merci !
Donc c'est moi qui dois répondre, c'est ça ?
Anne-toi, comme vous voulez. Quand je te dis autorité, là, comme ça, en toute
légèreté. La relation parent-enfant, je dirais. Okay. Donc, dans un premier temps, c'est ce qui me vient à l'esprit, puisqu'on est là pour ça, autorité parentale. La relation parent-enfant, qui, du coup, a connu pas mal de transformations avec les années. Donc, on pourrait dire pas mal de choses sur ce sujet-là. Mais moi, pour moi, dans un premier temps, une relation quand même bienveillante, mais un partage entre le parent et l'enfant.
Ok. Anne, Benjamin, c'est bon.
Moi, c'est le fait d'avoir l'ascendant sur quelqu'un.
Ok, donc pour toi, c'est le fait d'avoir l'ascendant sur quelqu'un. Quand tu entends le mot autorité, en tout cas...
En fait, quand j'entends, bien sûr que si on creuse, je vais étoffer un peu plus ce que j'ai à dire. Mais là, comme ça, c'est l'ascendant.
Ok, Benjamin.
Ce qui n'est pas faux, hein, d'ailleurs, les deux. Alors, c'est vrai, moi, je vais citer la définition d'Anna Arendt.
Ouais, juste avant, toi, quand tu entends autorité, qu'est-ce qui te vient en tête de façon spontanée ? Quelle image
Malheureusement, j'ai Anna Arendt qui arrive assez spontanément parce qu'elle est rentrée tôt dans ma tête.
Tu nous expliques, vas-y.
Et alors, justement, elle définit l'autorité comme la capacité à se faire obéir sans avoir besoin de recourir ni à la négociation par argument, ni à la force.
Ouais.
D'accord.
Et je trouve que c'est plutôt intéressant, justement, sur l'autorité, au sens où c'est vrai que longtemps, on a tendance à associer autorité à autoritarisme, donc l'idée de se faire obéir de la discipline, en fait, un peu dans le sens que t'évoquais, Anne, justement. Et en même temps, finalement, cette façon de faire autorité par la crainte, quelque part, Le Fall disait très bien, c'est que finalement, c'est pas parce qu'on va être craint qu'on fait autorité et qu'on éduque correctement, justement. Ouais. Donc, ça... doit nous interroger aussi sur comment faire autorité indépendamment de la force, justement, ou de la négociation perpétuelle.
Aux antipodes de ce qu'on a pu connaître étant plus jeune.
C'est clair.
Justement, selon vous, en quoi c'est important, justement, de poser cette thématique ? Parce qu'on l'a dit, il y a l'aspect parentalité dans la famille, etc., mais ça va bien au-delà, dans les institutions, que ça soit l'école, le judiciaire, le régalien, il y a tellement de choses. En quoi, pour vous, c'est important de se poser quelques instants et d'aller questionner sur ces questions autour de l'autorité ?
On a bien vu ce qui s'est passé avec Naël, parce que c'est l'événement le plus récent où personne n'a su faire preuve d'autorité, justement, comme disait Benjamin, sans être dans la négociation, la contrainte.
Je dirais que c'est assez complexe, en fait. Je disais tout à l'heure, quand tu me demandais de définir, enfin, pour moi, ce qui me venait à l'esprit, c'est aussi l'évolution, finalement, de cette autorité dans le temps. Parce que comment est-ce que l'autorité a été amenée? Tu parles justement d'un épisode, je peux en parler en tant que représentante associative aussi, comment est-ce qu'on accompagnait les jeunes après la mort de Naël, paix à son âme. Ça a été très, très compliqué. C'est là où on s'est rendu compte du décalage quand même aussi avec les générations. Moi, je viens d'une génération où je pense qu'on est tous un peu à peu près le même âge, où la parole, voilà.
Ami beaucoup plus jeune que nous.
C'est ça, la quarantaine, hein, pour être gentil et global. Donc en fait, où l'autorité des parents était quelque chose de sacralisé, finalement, de respecté. Et la parole était vraiment quelque chose d'assez fort. Donc voilà, et on s'est rendu compte, notamment après, mais pas que, mais c'est vrai que l'épisode après la mort de Naël, paix à son âme, on s'est rendu compte que voilà, les jeunes n'écoutaient plus. Maintenant, il y avait des raisons aussi. On peut en discuter, on peut en débattre. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que finalement la voix aussi et puis l'autorité parentale a perdu aussi de la société aussi. Comment est-ce que la société a évolué, a perdu finalement aussi de son poids. Mais ça a été compliqué, en tous les cas, de raisonner. À l'époque, on avait aussi encore l'autorité des grands frères. Mmh. Et ces grands frères-là, justement, après l'épisode des révoltes, finalement, les enfants, enfin, ces jeunes adolescents étaient inarrêtables. Et on doit se poser des questions de pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cellule familiale pour qu'il n'y ait plus cette autorité-là, en fait? Moi, c'est plus l'évolution qui me questionne, en fait, aujourd'hui, puisque voilà, il y a le pouvoir des réseaux sociaux, l'éclatement, finalement, de la cellule familiale aussi, qui fait que, finalement, l'approche n'est plus la même.
Benjamin, Anne?
C'est vrai qu'il y a cette dimension de l'autorité parentale qui forcément vient directement. Et c'est vrai que pour moi, l'autorité parentale, au-delà du respect au sens de mise en respect, hein, parce que la mise en respect, c'est quand même tenir quelqu'un en joue, en fait. Enfin, donc il y a quelque chose d'assez violent, finalement, dans la notion de quand on appelle justement les jeunes à respecter les anciens, finalement. Mais il y a aussi cette idée, quelque part, pour moi, l'autorité, ça renvoie à la notion de responsabilité. Et donc de comment on va être, on va pouvoir répondre des actes de ceux qui ne sont sous notre responsabilité, en fait. Et répondre de leurs actes, c'est pas forcément les condamner. Si je reprends par exemple par rapport à Naël, on a beaucoup entendu justement le discours sur le manque d'autorité dans les quartiers, mais on n'a pas vraiment eu d'espace pour évoquer la question de pourquoi la révolte, en fait.
Voilà,
c'est exactement ce que tu dis. Hein. C'est comment justement on va pouvoir arriver à pouvoir repenser quelque chose, non pas simplement, alors pour le coup peut-être de ma place, pas que du côté de la cellule familiale, parce que je trouve qu'on a tendance à hyper responsabiliser les parents, et tous les discours qu'on a eus derrière étaient des discours notamment autour de l'idée de l'autorité paternelle, et qui est quand même quelque chose qui doit nous interroger, parce que ça veut dire l'autorité qui tape. Faut le dire, c'est comme ça que c'est perçu, en tout cas socialement, justement, tu vas voir quand ton père va rentrer à la maison, hein. En gros, c'est cette idée-là, très années 50-60, mais qui est en même temps encore très présente dans beaucoup d'esprits. Preuve en est les discours politiques sur la question, preuve en est l'élection de Trump et son investiture hier, et où justement on est vraiment dans cette représentation de l'autorité masculine, entendue comme celle des hommes, et où justement la police va par exemple incarner, en tout cas dans les représentations, incarner cette autorité-là. Et c'est une autorité qui est une autorité qui exerce une forme de domination, et qui donc, à mon sens, doit être interrogée, en fait, aussi. C'est-à-dire que si les jeunes n'écoutent pas toujours les anciens, c'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas envie, c'est peut-être aussi parce que là, il y a quelque chose dans le rapport de domination qui est en train de changer. On n'accepte plus les rapports de domination, et la structure de domination est en train d'être questionnée. Et on parle même d'adultisme aujourd'hui, donc de domination adulte. Et quelque part, pour moi, dans la parentalité, il y a cette dimension-là qui doit être prise en compte aussi. C'est-à-dire qu'on a un rapport de domination sur nos enfants et qui doit donc être réfléchi. Parce qu'en fait, si le rapport de domination il n'est pas réfléchi, c'est là que la violence arrive. Et c'est là, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse sur quelque part une forme de responsabilité, d'autorité éthique, donc de domination éthique, c'est-à-dire d'accepter son rôle d'ascendant, parce qu'en effet, on est un ascendant, on est responsable, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a toujours raison ou qu'on doit absolument nous respecter. Mmh. Et c'est là que, j'ai envie de dire, tout l'éducatif et le champ de l'éducatif s'ouvre. Sinon, bah, j'ai envie de dire, on a juste à mettre une baffe, on a juste à dire, écoute, comme à l'école, on t'envoie une crêpe, et c'est réglé. Mais c'est pas ça l'autorité, c'est pas ça respecter, c'est pas ça apprendre, c'est pas ça éduquer. En fait, éduquer, c'est apprendre à devenir qui on est censé être. Mmh. Et pour ça, il y a un moment, il faut écouter aussi.
Mmh. Anne.
Mais c'est intéressant ce que Benjamin vient de dire, parce que c'est vrai que dans les représentations, l'éducation va avec l'autorité. En tout cas, on...
Pour moi, ça va de pair. Je suis d'accord.
On est dans quelque chose où...
De toute façon, on parle d'autorité parentale.
Dès lors qu'on parle d'éducation, on a l'impression qu'on est obligé d'éduquer via...
C'est le pilier.
Cet ascendant, la force.
La savate.
Comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, la fracture vient dès lors où on est dans un questionnement et on questionne l'éducation qu'on nous transmet aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, à notre époque, voilà. De vieux, de vieillards, on ne questionnait pas en fait.
C'est ça.
On ne pouvait pas dire à notre parent, mais qu'est-ce que tu fais là ?
Je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord ou tu n'as pas le droit de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est possible. Et donc, je pense que c'est là où il y a un espèce de revirement qui est en train de se produire et le chamboulement vient de là en fait.
Bien sûr. Et on le voit clairement. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, entre les générations précédentes, en tout cas pour ma part, voilà, donc... On n'osait pas effectivement remettre en cause tout simplement ce qui était énoncé par le papa ou la maman, peu importe, mais en tous les cas surtout le papa, parce que c'était effectivement, comme tu disais,
c'était
Benjamin,
la figure de
puissance paternelle.
Voilà, tout à fait, la puissance. Et après, j'ai envie de dire aussi, on a toujours dit aussi que normalement, enfin, un enfant c'est tout un village en fait qui élève un enfant. Moi, j'ai grandi dans les quartiers où aussi on avait ces valeurs en fait, effectivement, où quand même. Même s'il y avait cette valeur paternelle qui était assez forte, assez dure, on avait des échanges, etc. Il y avait encore du dialogue, en fait. Il y avait finalement cette souplesse et à la fois cette fermeté. Aujourd'hui, on a l'impression que nos jeunes, en fait, vis-à-vis de cette autorité, la reconnaissent plus. Parce qu'effectivement, maintenant, on discute. On remet en cause la parole d'un parent, chose qu'on ne voyait pas auparavant. Mais j'ai envie de dire, ça construit aussi l'être humain et le citoyen de demain. Donc, c'est comment est-ce qu'on trouve l'équilibre, en fait, entre cette fermeté, cette souplesse voilà, qu'on avait connue. Comment est-ce que c'est un réel défi aussi pour les parents d'aujourd'hui, comme pour la société. On parlait de l'éducation, mais est-ce que c'est vraiment l'école qui forme, qui forme à l'autorité les générations à venir? On sait très bien l'état aujourd'hui de nos écoles, l'état de l'instruction, en fait, notamment dans les quartiers populaires. Donc, c'est marche ou crève, je dirais. Donc, comment est-ce qu'on voit cette question finalement aussi d'autorité au sein des institutions. Comment est-ce que le jeune finalement aussi, j'ai envie de revenir au jeune, mais comment est-ce que lui finalement se voit évoluer à travers cette autorité en fait, à la fois familiale, à la fois des autorités et institutions. Voilà, c'est multifactoriel en fait en réalité, on est un peu perdu. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile en tous les cas d'être un jeune aujourd'hui que ça ne l'était, moi, pour moi, je trouve, il y a quelques années de ça.
Est-ce que, moi, j'ai une petite question, en entendant vos discours, c'est est-ce que les figures d'autorité doivent être exemplaires pour pas qu'on remette en cause ou en question leur autorité?
C'est une bonne question. Pour moi, non. Pour moi, non.
Mais personne ne peut être parfait.
Voilà.
Déjà.
Et là, c'est difficile parce que si on pose la perfection comme ça, enfin, on sait que c'est inatteignable. Donc, c'est quelque chose qui va détruire finalement aussi le système de pensée.
La perfection, ça rendrait les gens drôlement imparfaits. Enfin, en tout cas, si nous, on était des parents parfaits, nos enfants, eux, seraient vraiment imparfaits.
Mais on ne cherche pas des clones. Mais après, c'est vrai qu'on ne cherche pas des clones. Mais en même temps, ce qu'on cherche, c'est qu'effectivement, ces jeunes se construisent à travers effectivement, la figure et l'éducation qu'on leur donne, mais qu'on leur laisse aussi la part d'évolution, de construction de pensée, de critique, d'échange. Et ça, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, je vais donner un exemple tout bête. Il n'y avait pas les réseaux sociaux précédemment pour notre génération. Quand on était à table, c'était sacré être à table. On avait des discussions, des échanges quand même malgré tout en famille. Là, on le voit beaucoup moins. C'est des choses qui se perdent aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on construit finalement aussi ce système de pensée, la construction finalement aussi de ces jeunes quand il n'y a pas pas de discussion, quand il n'y a pas de débat, quand il n'y a pas d'échange, c'est essentiel. Voilà, ça s'est perdu aussi. Et je trouve que, du coup, les fondations, finalement, aussi familiales, aujourd'hui, ont été tellement remises en cause que, finalement, si en plus, on ajoute cette notion de perfection, on va droit dans le mur.
Après, moi, j'étais pas... Exemplarité et perfection, c'est pas tout à fait...
Voilà, moi, j'étais pas forcément dans la perfection.
C'est moi qui ai amené la notion de perfection. Ouais.
Très bien.
Parce qu'en fait, moi, j'étais plus dans cette notion d'exemplarité.
Ah, d'exemplarité, d'accord.
Parce que, du coup, lorsqu'on remet quelque chose en cause, c'est qu'on a quelque chose à redire.
Mais... Justement, enfin, quelque part, je vais revenir à la définition d'Hannah Arendt, parce qu'on est coincé entre les deux, en fait. Entre d'un côté de la force, l'autorité, la puissance paternelle, qui est plutôt du côté de la force, de se faire obéir en donnant des tatanes, en gros. Hein, ouais. Et de l'autre côté, dans l'hyper-négociation, qui est aussi parfois promue par certains magazines, d'être dans quelque chose, et notamment, par exemple, dans ce qu'on va appeler l'éducation positive, notamment.
Bienveillante.
Alors, qu'on appelle bienveillante, qu'on appelle positive, qu'on appelle à pas mal d'endroits, et en même temps, dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'assises scientifiques.
C'est un peu un fourre-tout.
Même d'un point de vue neurologique, quand on nous dit oui, mais l'enfant ne comprend pas le nom, il faudrait lui dire stop. En fait, même ça, c'est un peu orienté à certains endroits. Mais c'est vrai que, en tout cas, sans aller dans la critique totale ni de l'un ni de l'autre, parce que tout est à prendre, il y a à boire et à manger, il y a toujours des choses intéressantes à prendre. C'est quand même cette idée que, bon, déjà, en effet, l'exemplarité, elle est complexe parce que, comment être un bon exemple en permanence quand personne ne peut être parfait ?
Tout à fait.
Voilà. Et ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'en plus, la perfection, elle est tyrannique. Donc, elle est violente. Et ça, c'est un truc aussi qu'on a tendance à oublier. C'est qu'à vouloir faire un truc parfait, ça veut dire un truc qui ne doit plus bouger, qui doit être absolument comme ça, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est hyper angoissant pour tout le monde. Et c'est beaucoup plus rassurant. Et je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours entendu des enfants me dire « ça me rassure quand mes parents font des bêtises ». Quand ils ne sont pas parfaits, finalement, c'est rassurant. Parce que ça veut dire que moi aussi, j'ai le droit de faillir en tant qu'enfant. Mais ça suppose que le parent le reconnaisse.
Voilà,
déjà,
c'est ce que je veux
dire. Voilà, ça suppose que le parent s'excuse. Un parent qui faillit et qui continue de se présenter comme le modèle, et justement pas comme l'exemple, mais le modèle, parce qu'il y a une différence entre les deux. L'exemple, c'est une façon d'être possible. Le modèle, c'est la seule possible. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, pour moi, c'est un bon exemple à donner à ses enfants que de savoir s'excuser ou de savoir dire « j'ai pas été parfait ». Ou de savoir de temps en temps relâcher la pression en disant « allez, ce soir, ok, on se fait un dîner sucré ». Pourquoi pas de temps en temps ou d'avoir aujourd'hui, on reste en pige, c'est la vie. D'avoir des choses qui relèvent de la détente et de ne pas être toujours dans le sérieux, de ne pas être toujours dans quelque chose de... d'obligatoire, justement de responsable tout le temps. Il y a des fois où lâcher l'autorité, ça fait du bien aussi.
Et puis de reconnaître que des fois, on n'y arrive pas.
C'est ça, ce que j'allais dire.
Des fois, on ne sait pas faire. Et des fois, on a voulu bien faire et finalement, le résultat est catastrophique. Mais là où, et là où c'est intéressant, c'est que peut-être que justement, en termes d'exemplarité, ça commence par reconnaître le fait de ne pas savoir.
Et d'avoir ses failles.
Mais en tout cas, d'asseoir le fait d'avoir cette volonté de bien faire.
Voilà, c'est ça.
Et je pense que le fait d'exprimer cette volonté de bien faire sans être sûr d'y arriver et de rassurer l'enfant sur, tu vois, c'est comme toi. Quand tu essayes de bien ranger ta chambre et que finalement, elle ne ressemble à rien. Mais tu as essayé.
On voit que ça parle. On voit qu'il y a un exemple là, pas loin.
Et du coup, je pense qu'il y a cette question-là. Et puis tout à l'heure, vous avez dit autre chose sur laquelle je souhaitais rebondir. Vous avez dit, on vit dans une société aussi où l'autorité, elle passait beaucoup par cette image de l'homme qui posait le cadre. Et du coup, est-ce que selon vous, c'est une question vraiment ouverte, chez vous les auditeurs aussi, allez-y, questionnez-vous. Parce que moi, il y a vraiment quelque chose qui m'agace avec ces familles monoparentales. Donc, selon vous, est-ce que le fait d'avoir une augmentation de ce nombre de familles monoparentales, donc qui sont avec des têtes de file femmes,
à 95%,
à 95%,
tout à fait.
Du coup, ça ne vient pas déséquilibrer toute cette discussion autour de l'autorité. Puisque si on part du principe que cette société reconnaît l'autorité par la place de l'homme, dès que l'homme sort de la scène, il n'y a plus d'autorité. C'est vraiment une question que je me pose parce que à chaque fois qu'il y a un conflit ou une difficulté à maintenir l'ordre, à obtenir un cadre, on revient sur la place des hommes, l'absence des hommes, etc. Donc, ce qui voudrait dire ou qui sous-entend que s'il n'y a pas les pères, s'il n'y a pas les hommes, il n'y a pas d'autorité.
Bah moi qui ai été une mère célibataire, je l'ai entendu toute ma vie. Mais j'ai une fille qui a 22 ans, donc ça fait 22 ans que je l'ai entendu. Enfin, je l'ai un peu moins ces 3-4 dernières années, j'avoue. Mais je l'ai entendu depuis l'entrée à l'école de ma fille, donc depuis ses 3 ans. En fait, on m'a expliqué que j'allais pas pouvoir faire autorité sur elle, étant donné que j'étais toute seule. Alors, c'est pour ça que je me permets, hein, parce que pour le coup, là, je me sens concernée.
Ouais, c'est
et c'est vrai que c'est assez marrant. Enfin, moi, ça m'a toujours fait beaucoup rire, en fait. Enfin, rire intérieurement, parce que ça nous agace aussi quand même à plein de moments quand on se le prend dans la figure. Et c'est pour ça que, par contre, ça me met assez en colère d'entendre les discours politiques actuellement là-dessus, notamment sur le droit de visite obligatoire des pères. Enfin, il y a un moment où, en fait, être un homme ou une femme, ça ne veut pas dire être que féminin ou masculin. Déjà, on est tous faits de féminin et de masculin, et on a tous construit, on s'est tous construit, j'ai envie de dire, un cocktail unique de l'un et de l'autre. Donc, être dans un corps féminin ou dans un corps masculin ne veut pas dire qu'on est un homme ou une femme, déjà. En plus, aujourd'hui, c'est compliqué, toutes ces questions-là, mais c'est pour dire que on est forcément, j'ai envie de dire, être une femme seule ne veut pas dire qu'on n'a pas de rapport à l'autorité, qu'on ne peut pas faire autorité. Ça, c'est complètement faux. Et en plus, je vais même pousser un peu, c'est que socialement, pour moi, c'est raciste.
Déjà.
Parce qu'en plus, on voit que le gros des familles monoparentales sont des familles qui sont issues de l'immigration. Donc, il y a aussi cette représentation-là que, a priori, quand on est une femme et qu'on est une femme en plus pas suffisamment insérée, parce qu'il y a toutes ces représentations-là derrière aussi, on va forcément pas s'en sortir. En faisant une confusion entre l'économique et l'éducatif. Et ça, c'est très problématique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai des difficultés financières, que j'ai une situation de précarité, que je ne vais pas être en capacité de dire oui ou non à mes enfants.
Tout à fait. Tout à fait.
Par contre, si je suis en fragilité psychologique parce que j'ai un conjoint qui me fragilise à plein d'endroits, là, je ne vais pas pouvoir faire autorité. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe. C'est-à-dire que la plupart des femmes, là, je vais prendre que le côté des femmes pour avoir aussi accompagné pas mal de femmes autour de ça, la plupart des femmes exercent mieux leur autorité une fois qu'elles sont toutes seules que quand elles sont en couple, quand c'est un choix de leur part de partir. Attention, hein, j'insiste. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont moins fragilisées par la situation de couple, elles sont moins mobilisées par la situation de couple, qui, en plus, s'il y a des violences, va aussi générer des formes d'emprise, générer aussi des formes de trauma qui vont amener à ce que ça soit difficile d'exercer son autorité. Alors que finalement, quand je suis toute seule, j'ai pu à négocier avec quelqu'un qui a peut-être des visions différentes de moi aussi, qui va me remettre en cause, qui va passer son temps aussi parfois à m'expliquer que je ne suis pas une bonne mère au bon endroit, parce que c'est quand même encore très présent dans la société patriarcale dans laquelle on vit, que ces messieurs nous expliquent comment être mère.
Oui, hein, c'est le comble.
Surtout quand ils sont là à peu près une fois par mois. Vous voyez,
ou en tout cas nous montre du doigt, nous désigne toutes les failles.
Ah mais on est responsable de ça. Mais on est responsable pour la psychanalyse, on est responsable pour pas mal d'endroits. Hein. Il y a pas mal de théories institutionnelles qui surresponsabilisent les mères et qui dédouanent complètement les pères de tout. C'est-à-dire qu'il faudrait les impliquer et certainement pas leur faire des gosses dans le dos, mais en même temps, voilà. Donc il y a cette idée quand même qu'une femme seule, déjà, peut exercer l'autorité. Et en fait, ce n'est pas son niveau, ses revenus qui définissent sa capacité à pouvoir faire autorité, mais c'est sa tranquillité d'esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à complètement sous-estimer. C'est que ce qu'il faut, c'est soutenir ces femmes pour qu'elles soient peut-être financièrement plus aidées. Mais ce n'est pas qu'une histoire de financier.
C'est
une histoire aussi de créer des relais. En fait, parce que faire village autour d'un enfant, c'est en fait... Avoir été seule m'oblige à aller chercher des ressources. Bah oui. Parce qu'à la limite, quand on est deux, on fait moins.
C'est
en fait.
C'est vrai.
Moi, ma fille a été beaucoup plus élevée par un collectif, finalement, que tous les enfants qu'elle a côtoyés qui avaient deux parents à la maison. En fait. Parce que justement, il y a moins ce repli sur soi. Il y a moins ce repli sur la famille. On est sur des familles externalisées, en fait, complètement. Et on fait famille. On construit nos familles, qui ne sont pas forcément les familles de sang. Aussi.
Mais comment on développe justement, c'est ça, ces relais-là. Parce que c'est ça, en fait, dont ont besoin ces femmes. Parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant, Benjamin. Mais ces mères isolées, qu'on appelle bien souvent mères isolées ou familles monoparentales, pour en connaître et accompagner au sein de mon association, ce sont des femmes, au contraire, résilientes. C'est des femmes, justement, qui tiennent à cette autorité et à transmettre, en fait, des valeurs à leurs enfants et qui se battent avec les moyens qu'elles ont. Encore faut-il, comme tu le disais si bien, Benjamine, qu'elle soit safe mentalement, même si voilà, la vie aujourd'hui fait que c'est très compliqué. Mais il faut leur donner les moyens, justement, effectivement, de pouvoir aller chercher ces relais-là. Mais pour moi, l'autorité n'est pas une question de genre, en tout cas. Ça, c'est certain.
Du coup, pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'elle prend tout son sens. Si justement, cette société fait passer l'autorité par l'homme et que dans ses représentations, l'homme a ce rôle-là, du coup, le discours ou en tout cas la perception de ce tableau-là, elle est obligée de venir questionner, est-ce que finalement c'est parce que les hommes ne sont plus à leur place en train de faire, d'exercer ce rôle, en tout cas éducatif, d'autorité, de poser le cadre à la maison, que ça vient transpirer dans nos rues, dans nos institutions, dans nos écoles, parce que là on s'est focalisé sur l'autorité au sein de la famille, mais du coup il y a aussi après cette passation d'autorité, ou non-passation d'autorité d'ailleurs, lorsque l'enfant va à l'école. Parce que du coup, selon comment elle s'exerce à la maison, tout à l'heure, Benjamine, tu donnais l'exemple de, et même Anne le disait, mais si c'est l'ascendant sur l'enfant, si c'est la crainte, si c'est une autorité que tu obtiens à coup de ceinture, du coup, quand l'enfant il va à l'école, il n'y a pas de coup de ceinture, il n'y a pas de négociation possible. Et du coup, comment le cadre, comment on transfère cette autorité ? Et souvent, il y a beaucoup trop de personnes qui déposent l'enfant, mais qui ne déposent pas l'autorité qui va avec. C'est-à-dire, je te confie mon enfant, prends-en soin, garde-le, etc. Par contre, attention, tu fixes pas de règles, tu le punis pas, tu le sanctionnes pas, tu le reprends pas, tu le laisses faire. Et du coup, la réelle question, c'est comment on transfère cette autorité d'une sphère à l'autre, sachant que l'enfant, lui, il va, il vient, entre l'école, mais aussi dans la rue. Mmh. Un enfant qui est dans la rue, tout à l'heure on parlait de « il faut tout un village », mais c'est la même chose. L'enfant qui est dans la rue aujourd'hui, qui pose un acte sur lequel il y a plein de choses à redire, il n'y a plus aucun adulte qui ose prendre la parole en fait. On le regarde, on n'ose pas, on a peur, les conséquences, le parent, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Qu'est-ce que vous voulez en dire ? Et puis j'ai même pas encore parlé des forces de l'ordre, on y va piano.
mais tu vas y aller ?
Non, je t'en prie, et puis je compléterai si besoin. Moi, je voulais parler de la violence de la société, parce que la violence de la société.
Notamment, tu évoquais le fait d'avoir peur, d'avoir peur des enfants. Et moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Mm. C'est la manière dont aujourd'hui, on a tendance à avoir peur de ses propres enfants. Exactement. Et une société qui a peur de ses enfants, c'est une société qui est malade pour moi, en fait. Mm. C'est-à-dire que ce ne sont que des enfants. Donc, ils jouent leur part d'enfant, point. C'est à nous de... Alors, pour le coup, d'être des adultes et être adulte. Et là, j'ai presque envie de citer Judith Godrèche, finalement, qui disait, moi, j'ai été une enfant au milieu d'adultes qui ne faisaient pas les adultes. Mmh. C'est qu'être adulte, c'est être responsable et c'est savoir dire de temps en temps, non, là, en fait, toi, tu ne vas pas aller là. Exactement. Tu ne vas pas faire ça, en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi, si tu en as besoin. Mais en tout cas, tu ne vas pas le faire. Et c'est moi qui décide. Et je décide non pas en connaissance de cause, c'est-à-dire que je sais mieux et ma décision n'est pas à remettre en cause, mais je décide parce qu'en fait, c'est vers moi que tu te retourneras si tu trouves que ma décision n'était pas la bonne. Et je serai là pour t'écouter et t'accueillir et faire « Ok, j'ai peut-être pas pris la bonne décision, mais c'était ma responsabilité de la prendre. » C'est ça ce que j'appelle la domination éthique, en fait. C'est-à-dire de vraiment être en capacité de pouvoir décider pour l'autre, parce que c'est ça notre responsabilité de parent.
Devoir, ouais, bien sûr.
Mais décider pour l'autre sans, en fait, considérer que notre décision est forcément bonne. C'est toute la difficulté, en fait. C'est d'arriver à accepter qu'on fait peut-être une erreur. Donc, de savoir que nos décisions sont des hypothèses. Et c'est là où, en fait, la plupart des parents aujourd'hui, parce que la société dans laquelle on est a tendance à faire un repli de chacun sur son individualité, donc ce qu'on appelle l'individualisme, et donc sur sa sphère familiale, à surresponsabiliser les parents, qui amènent les parents à ne plus accepter l'autorité des autres. Parce qu'en fait, c'est vers eux qu'on va se retourner. Quand l'école, par exemple, fait une erreur avec leurs enfants, c'est vers eux qu'on va se retourner. En fait, c'est vers eux que les parents, les enfants vont dire « Ouais, mais c'est toi qui m'as emmené à l'école. » Enfin, quelque part. Donc, il y a ma responsabilité, quelque part, qui est engagée. Donc, on a du mal à accepter l'autorité de l'autre et que le collectif des adultes est censé faire autorité ensemble parce qu'il y a cette espèce de crainte permanente de l'autre, quel qu'il soit. Mais qui va aussi avec, aujourd'hui, la crainte qui est à la fois réel et qui, en même temps, en fait, ne l'est pas tant que ça, de la pédocriminalité à l'extérieur. On sait que la pédocriminalité est essentiellement au sein des familles.
Au sein des familles.
Mmh. Elle n'est pas à l'extérieur. Mmh. Or, tout le discours, c'est...
Il est tourné vers l'extérieur.
Il est que tourné vers l'extérieur. Mmh. Il ne faut pas aller en colo. Et, les profs sont tous des pédos. Enfin, on entend ça, quand même. Mmh. On a 404 Billy qui nous le dit tous les deux jours. Non, mais on a, dans le rap, ça, on entend partout en ce moment, ce discours-là. Et c'est très inquiétant.
Mais personne ne dit... Fais attention à la maison et là j'ai envie d'aller
et
plus
loin. Et fais attention à tonton.
Et c'est pas et là j'ai envie d'aller plus loin. C'est pas forcément uniquement fais attention à papa, à tonton ou à ton frère.
Et
c'est
à fais
même attention à ta mère et
oui,
à ta sœur.
Voilà,
et là encore, on est encore tellement loin et c'est tellement tabou qu'on déjà on n'arrive pas à dire fais attention à l'intérieur. Mmh. Alors pour dire fais attention à ta propre mère, là on n'y est pas. C'est inaudible pour certains et pourtant là aussi il y a un réel sujet parce que bon.
On sait. Nous, on sait en protection de l'enfance, mais là, la plupart des gens ne veulent pas savoir.
C'est ça. Et si après, il y a autre chose que tu as dit qui me semble important, c'est sur justement l'autorité dans la façon de la poser et de reconnaître que aujourd'hui, peut-être que ce qui manque aux parents comme aux adultes tout court, c'est de prendre ses responsabilités et oser dire non.
C'est ça.
Et ne pas avoir peur d'être rejeté ou pas aimé par son enfant parce qu'on a dit non, ouais, parce que là, à l'instant précis, je dois prendre une décision et je dois dire non. Et peut-être que je me trompe, mais la réalité, c'est que là, tout de suite, c'est non.
Et
là,
je pense qu'il y a un réel sujet.
Il y a un réel sujet parce que les gens ont de plus en plus de mal à dire non, mais parce qu'il y a aussi des injonctions paradoxales qui arrivent de toutes parts.
Exactement.
Un pseudo-guide de la parentalité qui n'est pas matérialisé, qui n'est pas écrit, mais qui, quelque part, donne des leçons de morale à tout va. Et finalement, plus personne n'ose prendre des décisions.
Ben c'est ça.
Si je dis non, on va me dire que je suis un mauvais parent. Si je dis oui, on va me dire que je suis laxiste. Et puis après, il y a
C'est là où il y a le
cafouillage. La parentalité positive,
donc c'est, donc, c'est la faute de qui, alors Parce que depuis tout à l'heure...
On se renvoie la balle de tout le monde, en fait.
Tout le monde.
On a tous notre part, c'est un truc de colibri, tu vois, c'est ça. Tous notre part, mais attention.
Je dirais tous les adultes.
Voilà, parce qu'il y a les adultes aussi qui, malgré, avec le contexte et avec tout ce qui a été cité précédemment, c'est qu'aussi les adultes, enfin les jeunes plutôt, se sentent un peu parfois perdus parce que justement avec les injonctions complètement contradictoires qui viennent de leurs parents parfois qui sont eux-mêmes dépassés, qui ont justement effectivement cette vision aussi de l'éducation. Encore une fois, je fais le comparatif avec nos générations. Donc en fait, aujourd'hui, on a cette vision, je l'ai même moi-même un peu vécu au départ, quand on a son premier enfant, voilà, on idéalise et puis on ne sait pas dire non, on en fait un peu un enfant roi en fait. Et quelque part, voilà, on ne sait pas où on met le curseur, où en fait on se dit, bon, peut-être que je vais être un peu plus gentille, un peu plus douce et docile, laisser passer telle chose et telle chose. Et souvent, on se sent après parfois dépassé quand on arrive à l'adolescence, en fait. Ça aussi, c'est un âge charnière, en fait, où l'adolescent a besoin finalement de se construire avec les contradictions et dans le rapport de force aussi avec ses parents pour devenir un adulte. Et donc là, les parents finalement se sentent parfois démunis parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'on ne leur a pas transmis, ils ont des valeurs qui sont anciennes, qui ne correspondent pas finalement des valeurs de cette société au moment M, et donc du coup il y a un décalage. Et bien souvent, donc en fait, ces jeunes se retrouvent finalement dépourvus de lignes directrices, et donc du coup laissés un peu à leur bon vouloir, et donc ça crée en fait des conflits intrafamiliaux qui sont énormes, parce que pas de, encore une fois, pas de réel objectif. Voilà,
en fait.
C'est ça. Il n'y a pas de capitaine dans le bateau, en fait.
Exactement.
Et donc, du coup, quand il n'y a pas de capitaine dans le bateau, les jeunes font ce qu'ils veulent et puis ça crée des tensions. Et voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé autour de l'éducation positive, donc il faut être douce, docile et ceci et cela.
Et en plus, la mode change.
Voilà.
Et puis, la mode change.
Oui,
ça
là,
veut dire
vrai,
que
aussi.
Selon l'âge de tes enfants, entre le premier et le dernier, tu as eu combien d'injonctions paradoxales des professionnels qui prennent la parole sur la parentalité. Donc.
Et en plus, la société et puis après les institutions te montrent comment est-ce qu'il faut en fait élever ton enfant, qu'il y a un cadre, etc. Quand toi, tu ne rentres pas dans
dans ce cadre-là. Donc, du coup, il y a une certaine pression qui fait que ça te renvoie le fait que tu n'es pas à la hauteur. Donc, du coup, tu lâches prise. Et bah, cet enfant, il est un peu à l'abandon parce qu'effectivement, entre ce qu'il vit dans sa cellule familiale parfois et ce que tu disais à l'école et ainsi de suite, bah, du coup, il ne sait plus en fait réellement à quoi se raccrocher. Et donc, ça nous mène effectivement, malheureusement, nous, dans nos quartiers populaires, à ce décrochage en fait dans la rue, ce décrochage aussi parce qu'il y a un décalage avec les institutions, avec, et puis on parlera comme tu disais voilà, de la police, ouais, etc. Donc il y a souvent, c'est vrai qu'on a souvent montré du doigt, donc vous parlez des injonctions notamment des familles avec Macron qui parlait des parents démissionnaires dans les quartiers populaires, voilà, de ce décalage finalement quand les enfants sont dans la rue, comme le père est peu présent, voilà l'image hein, qu'on renvoie, le père est
ils sont dans la rue
présent.
Par contre, alors il y a un problème.
Voilà,
aussi,
voilà. Mais moi j'ai envie de dire, ils sont dans la... voilà, moi j'ai envie de dire, ils sont dans la rue. C'est ça le problème en fait. C'est pourquoi ils sont dans la rue, non, en fait.
Hier avec Anne, on le disait en rigolant, mais on disait par exemple un père qui passe son temps lui-même dans la rue, au quartier, qui travaille pas, qui est là, qui est posé au même endroit que ces mêmes jeunes. Et en fait, en rigolant, on se dit, mais ça se passe comment? Du coup, quand ta femme, elle rentre, elle te check en bas du quartier, et puis on se retrouve en haut, et puis ton fils, s'il a besoin de te demander quelque chose, c'est pareil, il descend en bas. Et du coup, on le disait en souriant, mais la réalité, c'est ça aussi, parce qu'il y a aussi la place de chacun dans une société qui bouge. Et tout là où fait. C'est de plus en plus de mal d'avoir un train de vie décent, avec tout ce que ça implique, les horaires de travail, etc. Parce qu'on a quand même de plus en plus de Français qui sont obligés d'aller travailler, enchaîner 2-3 boulots, etc. Donc moins de présence à la maison. Donc tout ça aussi, ça a un impact sur cette autorité et sur cette capacité à échanger. C'est-à-dire que quand je rentre et que je suis excédée, est-ce que je vais reprendre de la même façon avec mon enfant?
Bien sûr que non.
Que quand, par exemple, je suis à la maison à 16h et que du coup, bah, franchement, bah, vous voyez, non, c'est non, pas du tout la même chose.
Est-ce qu'on donne l'autorité aux bonnes personnes en réalité?
C'est-à-dire
va plus loin.
Développe. Voilà.
Parce que là, vous avez parlé des parents. Là, par exemple, tu as donné un exemple de qui, pour moi, de parents défaillants. Oui. Pour moi, l'exemple que tu viens de donner à Aminata, on sait qu'il y a beaucoup de parents défaillants et qui malheureusement ont des enfants. Parce que moi, je pars du même principe que Benjamin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont effectives, mais ce n'est pas la faute des enfants. Parce que ce sont des enfants. Et comme par définition, un enfant est en train de se construire. Donc, le modèle...
Exemple. Enfin, le modèle c'est négatif, l'exemple, c'est le positif.
Donc, modèle ou l'exemple qu'il a n'est pas forcément bon. Donc, lui, il se réfère à l'exemple qu'il a.
C'est ça.
Donc, la faute vient des adultes qui l'entourent. Donc, c'est pour ça que je dis...
Ce ne sont pas que les parents, en fait, en l'occurrence.
Est-ce que l'autorité...
Et en même temps, est-ce qu'on peut faire un permis de parentalité? Parce que même ça... Enfin, là, pour le coup, en termes de droits humains...
On n'aurait plus de
l'école des parents. L'école des parents.
Oui, mais la fameuse école des parents qui est l'assaut. McDo a tenté de faire un peu des trucs de cet ordre-là. Bon, c'est ce que McDo...
Et puis, c'est pareil. En fait, si tu... Alors, c'est très compliqué parce que moi, je suis contre le fait de tout légiférer, de tout réglementer, etc. Mais n'empêche qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'accompagnement des familles et cette question de la parentalité, réalité, c'est qu'on vit encore sous un modèle où tu mets au monde ton enfant et puis adviendra ce qu'il pourra en fonction de tes capacités, tes forces. Tout à l'heure, tu le disais, de ton contexte environnemental. C'est-à-dire que si toi-même, on parle des blessures de l'enfant... Mais si toi-même, t'es pas très bien, que autour de toi, t'as pas forcément un cadre, t'as pas de repère, et que cette parentalité-là, elle te tombe dessus, tu feras avec ce que tu connais et ce qui t'entoure, avec les moyens que t'as. Et on n'est pas encore arrivé à ce stade de conscientiser le fait de... Mais il faut qu'on en parle, en fait. Il faut se questionner, il faut réfléchir ensemble. Et oui, dans l'idéal, on va faire de façon plutôt naturelle, comme ce que la plupart des gens arrivent quand même plus ou moins bien à faire, finalement. Mais quand même, la question de l'éducation à éduquer, elle est quand même intéressante à souligner, dans le sens où on voit bien que là, c'est la cata quand même.
Bien sûr. Après, moi, je pourrais dire que... Après, avec la casquette.
Benjamin, elle n'est pas OK.
Non, mais vas-y. Voilà. Après, moi, j'ai une casquette du conseil d'administration de la Fédération des centres sociaux où, bien souvent, en fait, dans cette éducation populaire-là, en fait, on essaye d'accompagner les familles dans le cadre de soutien à la parentalité. Donc, on essaye justement, quelque part, pour ces familles-là qui se sentent perdues, ces adultes, d'essayer justement de trouver, en tous les cas, des leviers, voilà, des leviers pour essayer en tous les cas de se tirer vers le haut et d'être accompagné justement quand on a des défaillances, quand on a effectivement des vécus assez difficiles, quand on est des personnes voilà, qui viennent d'arriver sur le territoire par exemple et qui n'ont pas les codes et qui ne savent pas à qui s'adresser. Enfin voilà, mais j'ai envie de dire que c'est multifactoriel en fait en réalité, Aminata.
Ouais, c'est multifactoriel, mais il n'empêche que... C'est un peu comme dans la protection de l'enfance ou quoi. Pour moi, t'es quand même souvent, quand on parle de soutien à la parentalité, souvent qui sont les familles en face, des familles qui sont dans la fragilité.
C'est
donc
vrai.
Pour moi, des familles
c'est
vulnérables.
Ce que je vois, voilà, tout à fait.
Une famille, un parent qui est vulnérable et qui vient chercher de l'aide, il n'a pas le temps de vérifier si ce que tu dis c'est fondé, si.
C'est vrai.
Et du coup, selon l'interlocuteur que t'as en face, moi je trouve quand même que ça devient, c'est pas dangereux. Mais c'est un peu comme ces histoires de coach de vie. Tout le monde, ouais, tout le monde serait le bienvenu pour te dire comment faire quoi que ce soit. Alors que la seule chose que j'ai plus que toi, c'est qu'à l'instant T, celui où tu es en face de moi, c'est toi qui traverses la difficulté, pas moi. Alors que peut-être qu'hier, c'était moi. Et que ma casquette et mon aisance fait que tu bois mes paroles comme si elles étaient paroles des évangiles, alors que rien du tout.
Non.
Puisque personne ne sait faire. Et que tant bien même que je saurais faire avec sans enfant, ça ne veut pas dire que toi et ton enfant, je saurais faire. Parce que je ne suis pas toi. Tu n'es pas moi et ton enfant n'est pas le mien. Et dans l'interaction, il y a encore plein d'autres faisceaux qui ne sont même pas pris en compte. Et du coup, ce qui me questionne, c'est qu'autour de ces questions autour de la parentalité, moi, je suis plutôt de ceux qui vont partir du principe que le plus difficile et notre plus grosse mission, c'est de motiver l'autre pour qu'il ne soit pas démotivé, qu'il ait le courage de recommencer encore et encore et d'essayer. Et comme on disait, de dire « bah merde, ça n'a pas marché », etc., de reconnaître. Mais pas de recette miracle.
Non, ça n'existe pas.
Mais aujourd'hui, le fait est, c'est que quand tu regardes, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, tu tapes parentalité, quand tu vois ce qui tombe, c'est que des injonctions. Ouais. Il faut pas, il faudrait, il faut. Mais bordel, vu que tu n'es pas moi et que je ne suis pas toi et que mon enfant, tu ne l'as même pas rencontré, comment tu peux me dire, il ne faut pas lui dire ?
Oui, je suis totalement d'accord.
Et du coup, il y a toutes ces questions qui. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais que je suis contre le fait de tout réglementer, légiférer, etc. Mais je suis quand même très sensible au fait que plus il y a de personnes qui s'auto-proclament. Expert dans un domaine, plus il y a de personnes en lien avec des personnes vulnérables et plus la conséquence sur le terrain, ça donne quoi ? Des parents qui sortent un peu déprimés parce qu'ils ont l'impression d'être les seuls à pas réussir à faire, de pas comprendre, et puis ce qu'elle m'a dit, ça avait l'air super top, mais à la maison ça marche pas. Un enfant qui voit un parent qui culpabilise de pas y arriver, etc. Et finalement, tu vois, on parlait d'exemplarité tout à l'heure, moi je dis souvent, mais comment un enfant peut aduler, respecter, aimer ou avoir envie de ressembler à quelqu'un qui est si mal, dont on parle si mal dans la société ?
Ouais, je comprends.
Tu sais pas faire, tu es vulnérable, tu es dans la précarité, comme Benjamin disait tout à l'heure, tu n'y arriveras pas seul. Mais de l'autre côté, on te demande de trouver un équilibre
d'être à la hauteur
dans la relation avec ton enfant. Alors que lui, tout ce qu'il entend de toi, c'est pas très joli. Hein.
Et c'est là où ce que tu dis, c'est que finalement, la plupart des dispositifs qui existent, malheureusement, et que ce soit d'ailleurs la protection de l'enfance dans laquelle je travaille, ou le soutien à la parentalité, sont très normatifs et donc très blancs. Là, moi, c'est la femme blanche du plateau, vous ne me voyez pas, mais qui le dit, c'est important. Parce qu'on est vraiment dans les représentations occidentales de ce que doit être la famille et donc de ce que doit être la famille patriarcale. J'insiste aussi beaucoup là-dessus parce qu'avec l'idée, justement, on parle encore de l'heure des mamans à 4h30, ce qui est quand même un vrai gros problème. Déjà, on parle de maman et de papa alors qu'il y a des enfants pour qui c'est des pères et mères, et pas des... parce que c'est affectif, maman et papa. Et déjà, c'est... Voilà, selon les relations, ça ne marche pas toujours. Moi, j'insiste beaucoup pour que les travailleurs sociaux arrêtent de dire alors qu'on va aller rencontrer ta maman en médiation. Ben non, peut-être que c'est qu'une mère en fait, ou un père, parce que voilà, voire un géniteur ou une génitrice pour certains enfants aussi. Et ça a du sens à cet endroit-là aussi. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas vraiment de... En fait, Tout à l'heure, je réagissais peut-être physiquement sur cette idée de parents défaillants, qui est un truc qu'on entend beaucoup, et je pense que tu l'as dit exprès, Anne aussi, enfin, je te connais un petit peu, parce que justement, cette idée de déchéance parentale, défaillance parentale, ce qui est quand même un truc qui est apparu sous Vichy, j'aime bien le rappeler, en fait, avant, ça n'existait pas. Parce que justement, cette question de la parentalité, il n'y a pas d'école des parents. On n'a pas de permis pour être parent. Il n'y a pas de raison, parce qu'en plus, on voit bien que qui vont être ceux qui n'ont plus le droit d'être parents, à savoir les parents.
Et on apprend les
personnes issues de l'immigration, notamment, et notamment plutôt on du continent africain.
On aurait des permis à moins 20 points.
Voilà. parce que soi-disant, là, ça serait justement, autant il y a toute une politique nataliste pour les Blancs, qui est hyper importante, mais qui va avec une politique dénataliste pour les non-Blancs. Et avec une criminalisation des enfants non blancs. Ouais, donc tout ça doit nous interroger au niveau global en fait, parce que derrière il y a des, en fait derrière cette idée de parentalité et d'autorité, il y a des relents et des biais racistes en fait. Il y a des biais sexistes qu'on a vu juste avant. Là on est sur les biais racistes qui sont aussi présents finalement dans toutes nos institutions et avec les représentations de qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit pas faire. Alors j'ai envie de dire, aucun parent, c'est quand même cas de notre génération aujourd'hui que la question de la parentalité se questionne. En effet, avant, ça ne se questionnait pas. On faisait des enfants comme ça. Mais aujourd'hui, moi, là où je suis moins d'accord, c'est que je pense qu'il y a quand même toute une génération qui se réfléchit, parce qu'il y a toute une génération qui s'interroge sur ce qu'elle veut des enfants. Justement pour ces raisons-là. Pas que pour des histoires environnementales. Aussi beaucoup pour des histoires de reproduction de trauma. De est-ce que je vais être en capacité de pouvoir éduquer correctement. J'entends de plus en plus de parents s'interroger sur est-ce que j'ai les moyens d'avoir plus d'un enfant.
C'est vrai.
Ce qui est aussi une vraie question. Est-ce que je vais pouvoir tenir avec ma carrière ou pas par rapport à ça. Donc faire plein d'enfants comme nous on en faisait, enfin j'ai envie de dire, c'est devenu questionné. Et c'est pas un problème en soi. Vous voyez, c'est aussi une façon pour moi de me dire, en tout cas de ma place, je me dis oui, mais je pense que les générations qui viennent vont être des parents intéressants aussi. Dans le global, il y aura toujours des dysfonctionnements, mais dans le global, il peut y avoir aussi des choses intéressantes parce que justement, les questions aujourd'hui de traumatisme et de reproduction de traumatisme est quand même vachement plus présente. La question aussi d'analyser d'où on vient, qui on était, notre histoire, qu'est-ce qu'on veut être comme parents, comment on veut faire famille ou pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui peuvent ne pas vivre ensemble et être des très bons parents.
Tout à fait.
En fait, on peut être deux parents du même sexe et tout à fait être de très bons parents. La famille est en train d'évoluer et tant mieux. Parce que la famille classique est aussi le lieu de la souffrance, en fait. La famille simple, patriarcale, est aussi le lieu, en fait, de la souffrance de beaucoup des traumas de la plupart des gens, en fait. Donc, de pouvoir la questionner un peu, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. De la remettre un peu en question, c'est aussi une bonne chose. C'est ce que les nouvelles générations font. Alors oui, ça vient un peu gratter pour nos générations et notre autorité au sens d'être auteur de ce qu'on a construit, parce qu'être auteur, enfin être autorité, c'est aussi être auteur, donc on a construit nos familles, on a construit nos éducations, on en est l'auteur, vous voyez, donc de notre autorité, et donc ça vient nous gratter là-dessus, c'est comme si on remettait en cause le film qu'on avait fait, quoi, en gros, et notre film dans lequel on vit, ça fait mal, mais si on accepte ce mal, qui est peut-être un mal pour un bien, il peut y avoir des choses hyper intéressantes dans le relationnel que ça génère et les échanges que ça génère avec nos enfants.
Et à partir de quand, parce que tu l'as évoqué, à partir de quand le mot parentalité a commencé à apparaître dans la sphère
À partir du moment où on a enlevé dans le code civil que l'homme, et ça va revenir à ce qu'on se disait au démarrage, était donc le chef de famille et qu'il avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants et sa femme.
Okay.
Voilà pourquoi la force vient du père et la puissance paternelle, elle vient de là. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas si saine que ça, parce que c'est quand même un droit de vie ou de mort, mais qui renvoie aussi à la puissance de la police, parce qu'en fait, qui est l'exécutif. Parce qu'en fait, en France, on a considéré que la famille, c'était le microcosme de la société, donc de l'État. Et donc, il fallait un chef d'État et un gestionnaire. Le chef d'État, c'était le père, la gestionnaire, c'était la mère. Quelque part, avec la même division que le président, le premier ministre. Donc le président qui s'occupe de l'international, de l'extérieur, et le premier ministre qui s'occupe de l'interne. Et puis à partir de là, voilà, et donc avec, et il n'y avait pas forcément de députation partout. Et avec l'idée, même dans les conseils de famille, on peut retrouver des choses aussi avec les espaces de chacun, mais qui déjà sont plus collectifs. Mais dans la famille patriarcale, on était vraiment sur ces représentations très genrées, où l'autorité, c'était le père, en fait, et la police était quelque part la main armée du père et de l'exécutif au sens du président, hein, et qui faisait aussi justement que on, c'est pour ça que dans, même dans la, ce qui traverse les, nos institutions, c'est quand même vachement le patriarcat en fait, et le patriarcat tel que l'Occident l'a pensé. Hein. Donc aussi avec justement bah, la police, c'est pour ça qu'il y a autant de virilisme dans la police, que dès la formation des policiers, on leur apprend à la force, on leur apprend à être à mettre des gens par terre, que quand on écoute ce qui se passe dans les écoles de police, enfin c'est quand même dramatique et pour les racisés et pour les femmes depuis que ça a été ouvert. Donc en fait on parle de parentalité depuis 75, avant on n'en parlait pas.
En fait. Et puis c'est important parce que du coup ça permet de rappeler aux auditeurs que bah, c'est inscrit aussi hein, au code civil l'autorité parentale
et conjointe maintenant.
Conjointe et du coup
2004.
Des devoirs.
C'est un ensemble de droits et de devoirs pour protéger l'enfant. Voilà. Juriste de formation. C'est l'autorité parentale est définie légalement comme un ensemble de droits et de devoirs pour protéger l'enfant. Justement donc et son application. Bon maintenant depuis elle est complexe hein, de par ce notamment ce que tu disais, mais effectivement donc vis-à-vis de tout ça, comment est-ce que...
Et comment protéger sans enfermer, comment permettre, parce comment articuler la protection de l'enfant et les droits aux loisirs, les droits à la, enfin, aux, qui sont ce qu'on appelle les droits internationaux des droits de l'enfant, qui sont aussi présents. Donc, par exemple, voilà, protéger. Alors voilà, j'ai mon enfant qui veut partir en colo. Donc, pour beaucoup de parents, le protéger, c'est bah non, il y a des pédocriminels forcément dans les colos, donc il ne faut pas qu'il y aille. Non, mais c'est ou dans les classes vertes, ou dans les déplacements. Et en même temps, moi, je m'interroge toujours là-dessus, c'est-à-dire cette éducation très renfermée, c'est-à-dire très repliée sur soi, qui est une des dérives de la protection. Ouais. Hein, j'insiste sur le côté dérive, mais qui part d'une bonne intention, souvent, mais qui, quelque part, empêche l'enfant de pouvoir devenir, de pouvoir, quelque part, s'émanciper, de grandir, de pouvoir...
Et de confronter au monde extérieur.
Et, à d'autres façons de voir. Aussi, c'est ça que les parents ont plus de mal. C'est là où, pour moi, il y a une vulnérabilité parentale qui est nouvelle. Parce qu'on leur met tellement sur le
pression.
Dos qu'il y a quelque chose où je vais être jugée.
Ouais. Et puis de l'autre côté, l'enfant, enfin, de toute façon, tout être, pour grandir, pour devenir, on a besoin de aussi se confronter aux autres, de se confronter à d'autres manières d'agir, d'interagir. Et quelque part, moi, je le dis souvent lors des départs de classe découverte, où le nombre de parents justement, qui décident de ne pas inscrire leurs enfants commence à être en évolution vraiment constante, mais parce qu'il y a la peur, tout ce que les informations nous balancent, etc. Mais de l'autre côté, c'est là où c'est utile, justement, ces espaces de parents, pour justement aller aussi se confronter à d'autres parents, être rassuré et comprendre aussi en quoi c'est un apprentissage bénéfique pour l'enfant que de se détacher.
Bien sûr. Mais c'est là où Magda en parlera encore mieux, mais c'est là où les groupes de pères PAIR, les groupes de pères sont hyper fonctionnent très bien. Et je pense que tu vas, je te laisse la parole.
Tu peux finir, Benjamin. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on accompagne en fait par des groupes de pères cette parole et comment on accompagne finalement ce soutien à la parentalité. Tu parlais tout à l'heure, Aminata, de ce regard qui vient te donner des leçons. Le regard
un peu descendant.
Méprisant, méprisant encore plus d'ailleurs et plus qu'avant. Donc et là pour le coup, on fait fi de ce genre de d'approche.
Et
c'est plutôt comment est-ce qu'on crée en fait des groupes d'échange de pères finalement entre familles, entre parents, puisque comme tu le disais si bien encore une fois, les parents au sens large du terme. Et moi je sais que ça fonctionne parce qu'aujourd'hui on accompagne des familles au sein de mon association, au sein d'autres initiatives. Et on trouve à peu près, ça commence à se développer de plus en plus. Et comment est-ce qu'en fait, on essaye d'échanger, en fait, des procédés Moi, j'ai failli à ce niveau-là. Je suis pas seule, en fait, en réalité, à être dépassée. Ah oui, c'est vrai, toi aussi, tu as des soucis avec ton gamin qui rentre hyper tard le soir, qui veut pas écouter, etc. Moi, je me sens moins seule. Et comment est-ce qu'on va essayer ensemble trouver, toi, ça a marché, j'ai fonctionné comme ci, comme ça. Enfin bref, en fait, réellement, comment
les anecdotes, en fait, il n'y a rien de tel que les anecdotes.
rien que de la réalité. Et comme tu disais, les pères, d'où l'importance d'en revenir systématiquement à ça, d'arrêter de venir et de nous déverser une science qui vient de je ne sais où, de cette société, justement, comme tu le dis si bien, patriarcale, et cette vision patriarcale, parce que de modèle parfait, ça n'existe pas. Donc, à un moment, quand on crée ces temps d'échange, donc, on se rend compte que finalement, on n'est pas mieux ou moins bien qu'un autre, en réalité, qu'on est tous confrontés aux mêmes problématiques et qu'en réalité, on essaye tous au quotidien de trouver et de faire de notre mieux, tout simplement.
Et c'est tout l'enjeu de la transversalité, justement, et donc transversale, ça veut dire qu'il se met de côté, en fait, et qui arrête d'être descendant, justement. Et cette transversalité, c'est comme ça qu'on construit des réseaux, en fait. Et j'ai même envie de dire qu'on construit des réseaux sociaux.
Mais c'est
un réseau social. Et c'est ça qu'on a tendance, en fait, à omettre, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne voir que, et surtout en Europe particulièrement, mais en France très spécifiquement, on a tendance à attendre tout de l'institution. C'est-à-dire qu'on a un rapport aux institutions qui est très problématique, à mon sens, aujourd'hui.
Moi, je suis d'accord avec
toi. Mais parce qu'on a aussi fait en sorte qu'on soit systématiquement envoyé à ça.
Mais c'est très descendant, c'est très bourgeois comme façon de fonctionner, en fait. C'est-à-dire avec toujours quelque chose de très clair. Très cerné par classe.
On a créé aussi des assistés.
Oui, ça c'est vrai, c'est la réalité aussi.
Il y a certains qui sont formatés quand même.
Je pense qu'il y a toujours des exceptions dans un système. Moi, je trouve ça très intéressant. Il fait exprès, je sais qu'il fait exprès. que c'est pour m'agacer, mais il n'y arrivera pas. Mais je ne peux pas valider un discours sur l'assistanat, parce qu'il n'y a pas de business de l'assistance en France. Ça, ce n'est pas vrai. On ne se fait pas d'argent. Il n'y a pas d'argent récupéré, parce que ce serait ça l'assistanat. Le A signifie comme l'entrepreneuriat, en fait, le système qui permet de pouvoir gagner de l'argent sur l'assistance. Or, ça n'existe pas en France, et c'est important de se le rappeler. Personne ne se fait de l'argent en ayant des aides sociales.
Mais est-ce que, parce que là, tu as parlé étymologie de l'assistanat, mais est-ce que, comment dire, il n'y a pas le pompier pyromane un peu?
Je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'en même temps, moi, je suis plutôt contente, et c'est ça qu'on est en train de mettre à mal actuellement, et notamment le macronisme, justement, c'est tout le système de ce qu'on appelle le bouclier social, qui est quand même ce qui nous a permis en France, et contrairement à tout ce que les pays européens, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est en vertu de l'harmonisation européenne qu'on est en train de le perdre, et c'est important de se le rappeler et de se le dire, parce que ça, depuis la fin des années 90, on alerte là-dessus, en fait, en disant que alors, l'Europe, c'est une très bonne chose à plein d'endroits, mais attention à ce qu'on ne prenne pas que les mauvaises options de l'Europe, et notamment, on est en train de perdre notre bouclier social, c'est-à-dire que tout ce qui touchait justement à l'aide sociale, l'hôpital public, l'école publique, avec des fonds, avec des moyens, avec des fonds ZEP, tout ça, c'était des choses qui étaient hyper intéressantes, donc c'était les institutions, justement. Aujourd'hui, les institutions perdent, on est en train de voir que les individus sont surresponsabilisés et on n'attaque pas assez les institutions en tant que telles. Moi, ce problème, c'est les institutions, c'est pas les gens qui en profitent quelque part, des institutions. Et c'est là où, pour moi, le problème est du côté de l'institution dans sa structure, pas dans ce qu'elle permet ou pas. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique institutionnelle qui est donc une logique non pas de dispositif. Par exemple, dès qu'on est dans des dispositifs, on est déjà dans du réseau, parce qu'on est obligé d'aller chercher interinstitutionnel, et on le sait bien, c'est nos métiers. Donc, c'est justement de sortir de cette logique corporatiste, donc les flics avec les flics qui soutiennent absolument les flics, les profs avec les profs qui soutiennent absolument les profs, voilà. Et d'arriver à pouvoir penser la question du réseau, c'est-à-dire de mettre des groupes, des petits groupes de ces institutions, les uns en lien avec les autres selon leurs problématiques. Et ça suppose de penser transversal et d'arrêter de penser vertical. C'est surtout ça pour moi, en fait. C'est pas tant les gens que... Pour moi, les aides et les dispositifs sont toujours quelque chose de très positif, parce que j'estime que si moi je gagne et que je participe collectivement, c'est pour permettre à ceux qui ont moins que moi de pouvoir avoir autant que moi, et pas d'être celui qui gagne le plus et au-dessus de la pyramide. Tant qu'on pense en pyramide, il y a un problème.
Mais pour déjà, moi, faut penser à égalité. Tu vois, quand tu parles des institutions, c'est marrant, mais que ça soit dans le milieu associatif ou entrepreneurial, on a compris que le management était à changer, qu'il fallait quelque chose de plus participatif. Le seul endroit où ça reste très descendant, avec ton N+1, N+2, etc., cadre C, cadre B, c'est la fonction publique. Ça veut dire que déjà, de base, même quand tu tombes sur un chef de service qui a compris ces enjeux-là et l'importance par rapport au public avec lequel il travaille, notamment là on parle des enfants, des jeunes, et ben dans les structures, si tu veux justement avoir cette coopération et cette autorité qui soit pas violente, d'une part comme de l'autre, hein, pour les jeunes comme pour les animateurs qui aussi sont en souffrance, et ben il va falloir manager d'une certaine façon. Et là, la fonction publique, tout de suite, ça bloque. Parce que du coup, tu ne peux pas être dans quelque chose de participatif alors que c'est hiérarchisé. Et qu'en plus, quand j'ai eu mon concours cadre A, t'inquiète pas, ce n'est pas toi le petit cadre C qui va me dire comment manager mon
équipe. Les avancements où on empêche des en dessous parce qu'on a peur. Enfin, bon. Ouais. Mais il y a ça et en même temps, on va le retrouver aussi, il y a un contre ça aussi qui est très paradoxal, qui est par exemple l'institution école. Où le proviseur, le directeur de l'école, ou le principal du collège, le proviseur du lycée ou le directeur de l'école n'ont pas autorité sur leurs équipes éducatives.
Ouais. Mmh, c'est vrai.
Pareil au sein de l'ASE, par exemple, où les responsables de circonscription, donc il faut savoir que l'ASE est divisée par territoire, donc l'aide sociale à l'enfance, ceux qui se font énormément cracher dessus en ce moment, alors que quand même ils récupèrent toutes les difficultés sociales, justement, et sans aucun moyen, parce que pour le coup, là, l'institution État et le gouvernement, ne donne pas les moyens, et dès qu'il y a des commissions d'enquête, on alerte. Et là, je gros big up à l'IS Loufoque là-dessus, qui essaye autant qu'il peut d'alerter sur les réalités sociales, notamment l'aide sociale à l'enfance. Mais donc, les responsables de circonscription, parce que l'ASE est divisée en circonscriptions territoriales, n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur leurs équipes.
Et ça devient un problème aussi.
Mais ça devient des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on a à la fois un truc hyper stratifié, avec des parafeurs où pour une décision, il faut un mois et demi. Parce que ça, c'est la réalité de n'importe qui connaît la fonction publique et la fonction, qu'elle soit territoriale ou d'État, parce que c'est pareil. Et en même temps, on ne sait pas qui fait autorité. Et personne ne fait vraiment autorité au bon endroit. Donc, comment on pensait la question de l'autorité ? Nos institutions sont à revoir totalement. Il faut tout remettre à plat. Arrêter de penser la pyramide et penser le plat, en fait. Et de penser comment les gens, par mission, par projet, en fait... vont réussir. Alors, ça fait un peu macroniste quand je le dis comme ça. Ça fait un peu Startup Nation, hein, mais en tout cas...
On va le dire à la Magda, il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Quoi.
Voilà, c'est ça. Non seulement il n'y a pas de capitaine, quand il y a un capitaine, c'est un hyper autoritaire et qui devient, en fait, comme on le voit aujourd'hui, le chef d'État, qui quelque part, n'en a plus rien à faire de la démocratie. Ouais. Si les institutions ne sont pas l'exemple de démocratie, donc avec des contre-pouvoirs, des systèmes internes qui permettent justement de pouvoir questionner. Enfin bon, elles ne servent à rien. Et puis si en plus, aujourd'hui, on se rend compte qu'elles ne servent plus sur le terrain, en fait.
Sauf si à briser. Parce que le constat derrière tout ça, c'est que c'est les adultes qui doivent poser le cadre, on va dire, faire figure d'autorité ou pas pour tous les enfants qui nous entourent. Mais ces mêmes adultes sont eux-mêmes soumis à une autorité qui détruit au-dessus. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui sont tellement en souffrance dans le monde du travail, et parce que selon là où tu bosses, et selon justement si c'est pyramidal ou horizontal, tu te fais allumer du matin au soir. C'est-à-dire que c'est cet adulte qui est détruit, en fait. Comment après il a le temps, l'espace et la disponibilité pour poser le cadre différemment que celle soit que tu as connue étant enfant, tu parlais des traumas tout à l'heure, mais aussi celle que tu connais finalement au quotidien. Quand tu te lèves le matin, que tu es malmené, maltraité, même pas respecté, bafoué dans le monde du travail, et que tu rentres à la maison, et que là, tu as l'impression aussi de ne pas être respecté, bafoué par ceux qui s'occupent de tes enfants, donc l'école, souvent, le centre de loisirs, et que, en plus de ça, ça vient se manifester par... l'état naturel, biologique de ton enfant qui est dans la crise d'ado et du coup qui remet en question un peu tout, mais comment en fait tu fais ? Et là aussi, il y a un vrai sujet, parce que pour moi, tout à l'heure, on parlait de « il faut tout un village pour éduquer un enfant », mais ok, mais si ce village est malade...
Et défaillant, oui.
Plus que défaillant, malade, en fait. T'as un village malade, tout le monde
peste.
Est malade.
C'est vrai,
et elle s'appelle le capitalisme.
Et
capitalisme.
Tous les médecins ont la rage, tu vois, mais ils doivent trouver l'antidote. Et du coup, se pose vraiment la question des adultes qui doivent porter leurs responsabilités, assumer leurs devoirs et leurs droits et leurs devoirs, mais ces mêmes adultes vont pas très très bien finalement. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient se répercuter sur les enfants comme une continuité. C'est un continuum de violence, de mal-être, et quand on regarde la santé mentale des Français, Aujourd'hui, il y a un réel sujet. Les gens, on les sent, ils sont agressifs.
Bien sûr.
Et du coup, tu ne peux pas me faire croire que tu es agressif, super agressif dans ta voiture et au supermarché, et super désagréable, et tu n'as aucune façon de te tenir.
Et éducation positive dès que tu
passes la porte de la maison. Et par contre, dès que tu passes la porte de la maison, éducation positive. Et là, et je rejoins un petit peu cette exemplarité. Moi, des fois, je dis à des familles, je dis, mais quand tu passes ton temps au téléphone, à mal parler de tes amis, de ton frère, de ta sœur, etc., toute la journée, tu déblatères sur tout le monde, et que ton gamin, il est à côté de toi, est-ce que tu crois que quand il va aller à l'école, ça va être un super camarade ?
Bien sûr.
Enfin, parce que qu'est-ce qu'on lui montre ? Et là, on est un petit peu dans cette exemplarité. Ça ne sert à rien que je te dise, il faut bien te tenir, il faut bien te conduire, si dès que j'ai fini ma phrase, je prends mon téléphone et que je critique la personne avec qui on était en train de boire un verre. Enfin, nos enfants ne sont pas aveugles quand même.
D'accord.
Donc, il y a ces questions-là. Par contre, quand ça se passe bien, quand tout va bien et quand cette autorité, on a trouvé le juste équilibre, en quoi c'est quand même important et on ne peut pas non plus faire fi de cette autorité, mais peut-être penser différemment en enlevant le prisme de la violence. Mais voilà, en quoi c'est quand même nécessaire pour les enfants d'avoir un cadre, une sécurité. Tout à l'heure, on le disait, des fois, faut prendre des décisions qui vont à l'encontre de leurs désirs, mais pour autant, il faut bien que l'enfant le respecte. Et je reviens encore sur, on parlait des quartiers, c'est la révolte dans le quartier ou hors des quartiers, parce qu'on ne parle pas des zones rurales. Mais dans les zones rurales, ça va mal aussi. Nos jeunes dans les zones rurales ont aussi plein d'autres difficultés dont on ne parle même pas. Mais ils ne vont pas bien non plus. Du coup, comment ça se passe ? Parce que quand l'enfant, on ne veut pas qu'il sorte, il ne faut pas qu'il sorte pour ne pas se mettre en danger. Il faut bien réussir à le faire rester à la maison quand même. Quand cet équilibre est bien trouvé, quels sont les avantages selon vous ?
Les avantages, ils peuvent être nombreux. Parce qu'effectivement, déjà, c'est dur de trouver cet équilibre. Mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est comment... Après, je te laisserai Benjamine développer.
Je sais que c'était elle qui devrait répondre.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Elle n'a pas voulu prendre le micro, c'est pour ça.
Elle aurait pu répondre, c'est vrai.
On avait une jeune fille et aujourd'hui, on voulait profiter de sa douce voix, mais elle nous a dit non. Donc, le consentement oblige, on fait sans elle.
Eh ouais, on respecte le consentement des enfants.
Tu es toujours sûre de ne pas vouloir répondre, Meyssen ?
En fait, quand elle est bien dosée, cette autorité, c'est génial, parce que ça structure, ça rassure.
Ça rassure, ça permet justement de construire du coup le citoyen de demain, puisque finalement, là pour le coup, c'est cette jeunesse où cette jeunesse se sent en sécurité, puisque finalement, elle se dit voilà, aujourd'hui, je suis en mesure en tous les cas de me dire que je peux me tromper, à un moment, savoir me dire non, c'est aussi dans mon intérêt, en fait. C'est qu'on ne peut pas toujours dire oui à tout, sachant que la société est méga violente. Voilà, donc je ne sais pas pour toi, Meyssen, si tu souhaites répondre, comment est-ce que tu vois les choses quand... C'est ça, hein, Aminata. Comment tu vois les choses pour toi vis-à-vis de l'éducation. Quand il y a un équilibre, quand on essaye dans tous les cas de te montrer finalement que ce qu'on te transmet te servira plus tard. Comment est-ce que justement toi tu le vois, cette éducation que maman ou papa te donne, justement là en l'occurrence dans le foyer qui est le nôtre.
Oui, là vous allez parler de chez vous.
Je trouve que c'est bien parce que ça, il y a des parents par exemple qui s'en fichent un peu. Il y a des parents qui s'en fichent un peu, qui font pas, qui laissent leurs enfants un peu de côté. Et par exemple, toi, maman, tu nous éduques bien.
Merci.
Elle ne va pas dire le contraire devant, là.
La pression. Non, mais et pourquoi est-ce que tu trouves que je t'éduque bien, justement ?
Ça veut dire quoi, éduquer, bien éduqué ?
Qu'est-ce que c'est ?
En vérité, c'est plutôt une question compliquée. Parce que pour moi, éduquer, c'est... Par exemple, montrer à ton enfant, il faut faire ça, ou alors il ne faut pas faire ça. Par exemple, non, tu ne dois pas, manger de chocolat. Ou alors, oui, tu dois manger tu peux manger du chocolat. Je pense que c'est ça.
Et c'est quoi la différence entre bien le faire et moins bien le faire ? Parce qu'il y a éduquer bien et éduquer mal.
Dans
ce que tu as dit.
Je pense que... en vrai, chacun éduque comme il le peut. Par exemple, on n'a pas tous la même éducation. Par exemple, il y a un parent, il va te dire « Oui, tu peux manger ça. » Et dans une autre famille, il y aura un parent qui va dire « Non, tu peux pas manger ça, ça dépend. »
C'est une gourmande, je tiens à préciser. C'est pour ça qu'elle parle de manger.
C'est pour ça qu'elle parle de manger.
C'est pour ça qu'elle parle de manger.
J'ai pas trop d'exemple.
Voilà, mais c'est un très bon exemple ce que tu viens de donner, parce qu'en effet, tu as raison que c'est toujours plus facile finalement de dire ce que c'est qu'une mauvaise éducation qu'une bonne. Déjà. Donc, dire qu'est-ce que c'est qu'une bonne éducation, c'est très compliqué parce qu'en plus, il y en a autant que de personnes. C'est l'éducation qui fait le moins de mal possible. Mais ça, on ne sait qu'une fois qu'on est devenu grand. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de savoir ce que c'est qu'une bonne éducation. Et parfois, on peut être convaincu en tant que parent de faire les choses bien. Et malgré tout, ça fera souffrir l'autre, l'enfant. Mais ça, on ne le sait pas. On va le savoir plus tard. Et parfois même, l'enfant le découvre plus tard. Vous voyez ? Donc, et c'est là où, par rapport à ce que disait Ami tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a, en termes de responsabilité et de parentalité, il y a aussi toute cette question autour de la santé mentale, quelque part, qui est très présente.
Oui.
Mais qui, en tout cas, de ma place à moi, je dis attention aussi pour ne pas renvoyer vers l'individu. Parce qu'en fait, la santé mentale, elle est aussi collective. C'est aussi, finalement, pour qu'on aille bien... Eh bien, en effet, si on a de quoi manger tous les soirs et qu'on peut remplir le frigo, c'est plus facile d'aller bien.
Oui, bien sûr.
Quel que soit l'âge qu'on a, tu t'en rends compte aussi.
D'accord.
Voilà, c'est plus facile d'aller bien et c'est plus facile d'être à l'aise avec ses enfants si on n'est pas obligé de cumuler trois boulots. Si on vit chacun avec un espace où on peut se dire « va dans ta chambre », c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Ce n'est pas forcément idéal, mais c'est plus facile. Voilà. Et ça, c'est aussi des éléments sociétaux qui renvoie au fait que pour aller bien dans sa tête, c'est pas simplement une histoire d'aller voir un psy ou un coach.
Non, bien sûr.
Ça va parfois au-delà de ça aussi. C'est aussi, est-ce qu'on a du soutien amical ? C'est pour ça que les réseaux de copains, c'est vachement important.
C'est
à l'adolescence qu'on les fait.
C'est vrai.
Mais il y a des parents qui vont dire, non, tu restes qu'avec nous.
C'est vrai.
Et pourtant, qu'ils font bien. Ils pensent à bien en faisant ça. Ils veulent protéger. Parce que les copains, ça peut être l'influence, ça peut être les bêtises, ça prendre un risque. De vous laisser dehors. Tu le vois bien, et ça, je vois que ça te parle.
Il y a même les relations filles-garçons.
Bien sûr.
Des fois, en tant que parent, on pense bien faire et c'est peut-être aussi comme ça qu'on a été éduqués. Et on se dit, les filles, elles vont traîner avec les filles et les garçons, ils traînent avec les garçons. Il ne faut pas se mélanger. Mais en vrai, est-ce que ce n'est pas important, dès le plus jeune âge, de côtoyer aussi l'autre sexe, en fait, que les filles et les garçons se mélangent pour mieux s'appréhender, mieux se comprendre, mieux grandir ensemble et justement avoir moins de problèmes dans quand tu prends un groupe d'enfants, en fait, par exemple, si tu regardes au collège, les groupes où il y a des filles et des garçons, et peut-être qu'ils savent mieux se conduire ensemble que des groupes où il n'y a que des filles d'un côté et que des garçons de l'autre. Quand ils se croisent, en fait, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude. Donc,
faut sortir du « les filles sont gentilles et les garçons sont des cons », c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Surtout sortir de ça.
Qu'est-ce que tu en penses,
En fait, par exemple, en vrai, ça ne me dérange pas. J'ai des amies filles comme garçons. Mais par exemple, il y a une fille dans ma classe, une fois, j'étais parlée, après je suis allée avec ma copine. Et elle m'a dit, tu parles avec le garçon ? Après, j'ai dit, oui. Après, j'ai dit, moi, j'ai pas le droit de parler avec un garçon. Mm. Et après, j'ai dit, je m'en fiche. C'est la même chose pour moi. Et elle me disait, moi, j'ai pas le droit. Et de toute façon, j'ai pas envie de parler avec un garçon. Après, on va me dire, par exemple, amoureux, amoureuse. Mm.
Voilà, mais parce que, tu vois, ça, c'est dommage aussi. Ça, c'est les adultes qui posent ça. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est beaucoup
c'est les adultes
qui vont,
c'est pas les jeunes. Hein,
et je suis désolée du mot que je vais employer, mais qui vont quelque part sexualiser vos relations à l'être. Déjà parce que rien ne dit que, j'ai envie de dire, toi ou ta copine, vous pourriez en fait préférer les filles. je sais que c'est encore un peu loin, mais dans l'idée, c'est possible, c'est des choses qui existent.
Exact.
Et qu'il n'y a pas de mal non plus. Et puis en plus, il y a aussi l'idée que, à travers ces relations que vous pourriez avoir, tout de suite, on va imaginer quelque chose qui est de l'ordre des adultes, qui est la sexualité.
Ouais.
La sexualité, c'est le secret des adultes. C'est pour ça que c'est pas un truc qu'on partage avec les enfants. Et on devrait même pas le projeter sur les enfants.
C'est ça.
C'est un début problématique pour moi de le projeter. Que ce soit à la crèche ou au collège.
Exactement. Non, parce que quand on voit deux filles jouer ensemble ou deux garçons jouer ensemble, des plus jeunes âges, à la maternelle par exemple, on va dire « Oh, c'est son meilleur copain, c'est sa meilleure copine ». Dès qu'on voit une petite fille et un petit garçon, même quand ils sont tout petits, on se dit « Oh, ils sont amoureux ». Mais oui, finalement, c'est l'adulte qui vient mettre dans la tête des enfants quelque chose qui n'a pas lieu d'être.
Et que les relations garçon-fille sont forcément sexuelles.
Exactement.
Alors qu'en fait, non.
Alors qu'en fait, non. Je joue avec elle ou je joue avec lui parce que je l'aime bien, parce que c'est mon copain ou ma copine. Et en fait, c'est notion d'amour, elle arrive beaucoup plus tôt, mais parce que c'est la télé, c'est les adultes, c'est un peu partout, comme si une fille et un garçon, bah, dès qu'ils sont ensemble, eh ben, il doit se passer quelque chose de l'ordre de l'amoureux.
Tout à fait. Mais d'où l'importance justement de l'éducation et de parler avec ses enfants. Parce que moi, je sais que je parle avec mes enfants de très tôt, en fait. Après, je le fais aussi en tant que parent d'élève, et pour que justement, on puisse déconstruire en fait aussi ces approches-là. Et c'est vrai que c'est encore une réalité, et j'ai l'impression même que c'est encore pire qu'avant, alors qu'on avance dans la société. Mais il y a un repli, finalement, aussi, à travers ces questions-là. Moi, je le vois en tant que parent d'élève. J'avais été contactée, je vais vous donner un exemple concret, l'année dernière, dans l'école primaire de mes enfants. J'avais été contactée, en fait, par la direction, parce que, tout simplement, en fête de fin d'année, vous savez, les kermesses, etc., en fin d'année, donc il y avait un spectacle qui était proposé. Et donc, en fait, il y avait une classe donc, mixte. Et il y a un papa qui a demandé à ce que sa fille ne fasse pas partie du spectacle. Pourquoi ? Parce que dans ce spectacle, elle donnait la main à un de ses camarades. Et c'est une enfant de classe de CM1. Vous voyez, donc c'est un enfant d'une classe, voilà, donc un enfant de 9 ans, une enfant. Et donc, c'est, alors que cette jeune fille est venue, comment est-ce que justement ça s'est su ? Parce que cette jeune fille, voilà, a pleuré et est venue voilà, se confier à son enseignant. Et donc voilà, c'est comment est-ce qu'aussi nous parents, on arrête de transmettre voilà, ces peurs-là, ce côté assez lourd finalement aussi, parce qu'on transmet en fait vraiment nos traumas, des fois une culture mal placée à nos enfants qui grandissent quand même dans ce côté multiculturel et qui du coup, on leur met des barrières comme ça assez jeunes et finalement on les empêche de s'émanciper.
Et parfois on les empêche de découvrir des choses par eux-mêmes aussi parce qu'en fait
en pensant qu'on leur mâche le travail, c'est entre
ça.
Guillemets.
Et alors après j'ai envie de dire on a tous des valeurs, des représentations et qui se respectent dans l'idée absolument, mais il y a l'idée aussi quelque part de, en tout cas de la relation qu'on va avoir avec ses enfants. Et si on en fait les enfants vont se construire, se développer des relations, faire leur réseau aussi à eux ou à elles. Et à partir de là, ils et elles vont aussi construire leurs relations. Et moi, j'aime bien rappeler que les relations humaines, c'est un continuum d'amour. En fait, parce qu'on parle de continuum de violence, mais moi, j'aime bien parler de continuum d'amour aussi, de plus en plus maintenant. C'est-à-dire que l'amitié, c'est une forme d'amour.
Bien sûr.
Et que d'ailleurs, moi, je ne peux que conseiller aux jeunes de se maquer avec leurs meilleurs amis, parce qu'en fait, c'est quand même, même parce qu'on est très bons amis qu'on va pouvoir vivre ensemble, hein, quand même. C'est quand même plus pratique.
T'as plein de points communs.
Voilà, c'est ça. J'ai envie de dire, on a un bon exemple sous les yeux, là. Donc voilà, hein, mais, et qu'on voit qu'ils travaillent ensemble, tout ça. Et donc on espère pour eux qu'ils s'entendent bien, hein, quand même. voilà. Hein. Mais donc, d'avoir, dans le continuum de l'amour, il y a l'amour parental, il y a l'amour amoureux, mais il y a l'amour aussi amical, il y a l'amour, j'ai envie de dire aussi, platonique, il y a l'amour intellectuel, il y a l'amour divin. Enfin voilà, tout ça, c'est des formes d'amour en fait qui sont sur la même ligne. Et je trouve qu'on n'apprend pas assez. On apprend beaucoup le continuum de la violence dans nos sociétés très violentes, mais on n'apprend pas assez le continuum d'amour. Et que finalement, on peut s'aimer très fort en tant qu'ami. Et d'ailleurs, moi, j'ai observé et je le vois, et finalement, les ruptures amicales sont presque plus violentes que les ruptures amoureuses. Et ça, à l'adolescence, ça fait très, très mal.
Bien sûr.
Et c'est ça, c'est avec ce type de rupture-là qu'on découvre aussi la valeur du sentiment. Voilà.
Oui, c'est vrai.
On parle d'autorité depuis le début de l'émission.
Et on finit sur l'amour.
Ouais, sur l'amour.
Mais c'est beau, hein.
Moi, je voulais revenir sur les personnes qui traduisent leur autorité forcément par la violence. Est-ce qu'on peut
parler d'amour, pardon.
Est-ce qu'on peut parler d'amour?
Mais parce que eux-mêmes,
oui,
voilà,
oui,
on peut.
Et tu tapes,
c'est ta façon de vivre.
Mais en fait,
pour certains, c'est le cas.
La question de l'amour, c'est un vrai sujet aussi parce que c'est une forme d'amour défiante Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire qu'on a des parents qui cognent amour, parce qu'ils ont été cognés eux-mêmes par amour. Et du coup, ils sont pas outillés pour faire différemment, mais on ne peut pas leur retirer le fait d'aimer. Même s'ils aiment mal, tu vois, l'inceste, c'est j'aime mal, j'aime de façon déviante.
Mais parce d'ailleurs, que, il le dit, j'aime trop.
J'aime trop, mais il y a de l'amour quand même derrière. On va justement essayer de garder cette question en tête, puisque ça va bientôt être le moment de rendre l'antenne. Ça passe vite, hein, une heure et demie sur, sur des sujets comme cela. Mais du coup, pour répondre un petit peu à la question de Anne, comment on peut outiller, où est-ce que vous pensez que les gens peuvent s'outiller pour faire justement différemment face à ces difficultés de poser le cadre, de trouver un équilibre dans l'autorité? Parce que finalement, dans le concret, ça se passe comment? Quand je demande à mon ado de ranger sa chambre, de faire ses devoirs, de ne pas sortir, de ne pas se mettre en danger à répétition et qu'il ne m'écoute pas, moi, je veux bien la non-violence, mais au bout d'un moment, elle va...
J'ai envie de lui mettre de bas.
Déjà, je vais commencer par crier, ce qui est déjà une première forme de violence.
C'est ça.
Et si je n'obtiens pas ce que je lui demande, bah, si je ne suis pas outillée pour faire différemment, bah, ça se passe comment dans les faits? Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est bien beau de dire non, stop à la violence, etc. Mais quand je ne sais pas faire différemment, que je n'arrête pas de te demander la même chose et que tu me regardes, mais que tu ne le fais pas, comment ça se passe et comment je peux faire différemment?
Chercher de l'aide. Chercher de l'aide autour de soi, côté amical. Voilà, on parlait tout à l'heure du réseau amical, du réseau d'amour qu'on peut créer autour de soi. Encore faut-il en avoir.
Et puis j'allais dire, on n'a pas abordé le regard des autres depuis tout à l'heure. Hein, parce que du coup, chercher de l'aide, ça nécessite de faire fi du regard des autres.
Exactement.
Et de venir te solliciter comme si
c'est ça.
J'accepte que tu me regardes en me disant, elle ne sait pas faire, elle est débordée.
Et en fait, ça voudrait dire qu'on ait déjà ce réseau amical assez fort, en fait. Et c'est déjà pour ne pas avoir le regard de l'autre. Mais c'est vrai que dans le à contrario, s'il y a le regard de l'autre, c'est très compliqué d'aller voir. Et c'est justement aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain local. En tout cas, moi, je le vois localement. Bien souvent, ces familles sont démunies parce que justement, elles veulent chercher de l'aide, mais en même temps, n'acceptent pas de dire qu'ils sont défaillants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, on parlait d'autorité. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est défaillant, ben, on vous retire vos enfants. Ça aussi, ça existe. C'est aussi une question qu'on n'a pas soulevée. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous avez des signalements qui sont faits par l'éducation nationale, qui sont faits donc, quand il y a une suspicion, tout simplement, parfois de maltraitance. Ça, c'est une chose. Et tant mieux qu'il y ait ce type de signalement quand il y a besoin, quand il y a besoin d'accompagnement. Mais j'ai envie de vous dire que ça aussi, dans nos quartiers, il y a eu des problématiques auxquelles, moi, en tous les cas, j'ai assisté, où malheureusement, en fait, cette crainte tout simplement de se dire aujourd'hui on va retirer mes enfants si je dis que je ne sais pas faire. Et donc forcément soit les personnes baissent les bras et donc du coup on arrive à des situations compliquées et on ne sait plus à qui s'adresser. Donc pour en venir à ce que tu disais Aminata, moi, je dirais, dans un premier temps, les associations locales, en fait, se rapprocher finalement aussi de personnes qu'on connaît. Généralement, on a tous autour de nous des personnes engagées, des personnes qui peuvent vous accompagner. Après, je prêche pour ma paroisse, les centres sociaux, c'est vraiment un soutien inconditionnel. Des personnes qui sont formées pour vous accueillir quand vous avez besoin, justement, d'avoir des relais et ensuite vous aiguiller en fonction des problématiques que vous avez. S'il y a des groupes, justement, d'échanges et de pairs, on peut passer par ce biais-là. Mais c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui avec le regard des autres, finalement, en réalité, d'accepter de dire que là, on n'a pas réussi. Et qu'est-ce que ça nous renvoie aussi, encore une fois, sur notre image? Et quelque part, aujourd'hui, on a une société qui veut tellement montrer qu'on est fort en tout, qui prêche l'excellence. Et donc forcément, quand on sort de ce cadre-là et qu'on n'est pas à la hauteur, on s'enferme et finalement, on s'enferme dans ce mal-être et on enferme la cellule familiale aussi dedans.
Benjamine ?
Moi, peut-être que je parlerais peut-être moins de défaillance que de vulnérabilité. Parce que c'est pour moi par la vulnérabilité qu'on peut retrouver du commun et du bien commun, en fait. Parce que qu'est-ce qui nous fait humain, c'est notre vulnérabilité, c'est pas notre puissance. Et donc, on est tous vulnérables, parents ou pas, enfants, adultes, on est tous vulnérables, chacun à notre endroit et chacun à notre façon, quelque part. Plutôt que de... Et c'est ça qui... En fait, c'est pour ça, d'ailleurs, que le regard de l'autre est si difficile. C'est parce qu'en fait, on est tellement renvoyé à nous-mêmes et à une pseudo-force. Enfin, ce qui est quand même l'enjeu de notre système méritocratique, en fait, où il faut être le meilleur pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que c'est des questions qui m'interrogent, moi, l'excellence, le mérite, tout ça, parce que en soi, qui mérite quoi, en fonction de qui, c'est qui les critères, c'est voilà, et c'est pour ça que c'est compliqué. Et en même temps, de pouvoir ramener quelque chose justement du côté de la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on peut partager parce qu'on l'est tous. Alors que renvoyer à la faille, quelque part, c'est s'exposer, c'est se mettre en danger. Alors que renvoyer à la vulnérabilité, c'est ce qu'on a tous de commun. C'est genre, c'est pas tellement j'y arrive pas, c'est vas-y, comment tu fais toi,
en fait. C'est ça.
Et d'arriver à créer en effet des espaces de réseau, donc en mettant à plat, donc sans être dans des regards jugeants, sans être dans des regards normatifs, de sortir des normes un peu, qu'elles soient d'ailleurs du côté de l'autorité ou du côté de la, enfin du côté de l'autorité au sens respect, crainte, ou qu'elle soit du côté de l'autorité bienveillante, éducation positive. C'est comment on peut permettre à chacun de trouver sa façon d'être parent, d'y être bien, et s'il y est bien, il fera bien.
Exactement.
C'est tout. Ouais. Et s'il y est bien, il fera bien, et il fera bien, ça ne veut pas dire qu'il arrivera à ses fins.
Non.
Ouais. Ça, c'est autre chose.
Parce qu'il y a plein de fois... Ouais, bah, moi, je suis désolée, j'avoue que pendant les révoltes, je ne sais pas, en tant que parent, moi, comment, même moi, en tant que parent, j'aurais empêché d'aller dehors, sachant qu'au fond de moi, j'aurais été dehors avec eux. Et je vais être honnête. Pour moi, c'était tellement injuste ce qui s'était passé que moi, j'ai compris. En tout cas, j'avais presque envie de dire, heureusement que vous êtes là, les gamins, en fait. À certains endroits. Je sais que ça peut surprendre un peu dans la terme de responsabilité.
Non, mais en fait c'est juste d'être au clair avec ce rapport à nous.
Exactement. Et de savoir si pourquoi on fait les choses.
Si moi, j'aurais rêvé d'avoir 17 ans pour être dans la rue avec vous sans que toutes les injonctions et toutes les responsabilités qui m'incombent me sautent à la tête, eh ben, y en a plein des adultes qui seraient allés. Et de l'autre côté, moi, par exemple, sur les révoltes de Naël, ce que j'ai déploré, c'est de me dire qu'on en est là parce qu'on entend des leaders... prendre la parole sur plein de thématiques, mais il n'y a pas de réel leader pour ces jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez démontré une force de frappe sous-estimée. Et si elle avait été organisée, conscientisée, et s'il y avait des personnes...
Le mouvement social.
Voilà, le mouvement social, en fait. Et du coup, je me dis, mais ne serait-ce que si tous ces jeunes, au même moment, ne seraient sortis qu'une seule nuit pour se rendre de façon pacifique à un seul endroit... Et même sans rien faire, même sans parler, juste tu t'assois par terre.
C'est le rapport de force.
Et en fait, juste l'image que tu renvoies, en fait, c'est là où on n'arrive pas à vous toucher, sur toutes les manifestations qu'il y a, vous n'y êtes pas. Et là, vous étiez tous au même endroit pour la même chose. Et du coup, il manque cette organisation. Et par exemple, moi, c'est ça que j'ai déploré. Et je me suis dit, mais si j'avais une baguette magique, tu vois, j'aurais organisé un loup-garou géant autour de l'Assemblée nationale, un truc où tu peux rien nous reprocher.
Alors, le loup-garou, il est tous à l'intérieur.
Et tous les loups sont dans l'Assemblée nationale, voilà. Et du coup, quelque chose de très pacifique, mais du coup, c'est l'effet de surprise. C'est-à-dire que là où, à chaque fois, on tombe là où on nous attend, bah, on fonce tête baissée là où on nous attend, c'est l'effet de surprise. Ça veut dire que si ce jour-là, il y avait eu cet effet de surprise, c'est-à-dire tous ces jeunes révoltés, mais qui arrivent à contre-pied, mais en fait, et c'est compliqué tout ça.
Et en fait, finalement, peut-être pour répondre à ta question, là, ça me vient en t'écoutant, mais je me dis, mais laissons nos enfants nous surprendre.
Exactement.
Voilà, parce que c'est ça, en fait.
Parce qu'il faut leur faire confiance.
Exactement.
Qui nous surprennent. C'est-à-dire que même si on ne leur fait pas confiance, en fait, potentiellement, ils vont nous surprendre.
Bien sûr.
En fait, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de nous surprendre. Et donc, quelque part, un gamin qui refuse l'autorité de son parent, c'est dur pour tout le monde, pour le gamin, pour l'adulte aussi. Mais quelque part, il y a un moment où il faut se dire, OK, il va me surprendre. Je sais pas où, quand, comment, manière ou d'une autre, il va me surprendre.
C'est difficile, mais effectivement, ça serait.
Et c'est là où, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir que nos enfants restent tels qu'on les a faits. Or, et ça, c'est en faire des choses. Or, c'est des personnes.
Et qui suivent nos projections.
Et c'est des personnes. Et qui nous ressemblent.
Et c'est des personnes avec des choix, qui vont faire leurs propres choix. Et qui seront pas forcément ce que nous, on voudrait pour eux.
Tout à fait.
Et ça nous gratte un peu. Mais c'est aussi comme ça qu'on les découvre et qu'on peut les regarder à un moment, une fois qu'ils sont adultes, en se disant « Ah ouais, t'es quelqu'un de bien, en fait. »
En fait. Et souvent, c'est « en fait ».
Ouais.
Si toi, si t'avais une baguette magique et que c'est toi qui décidais, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour réussir à éduquer, accompagner un enfant sans l'obliger par la force. Est-ce que tu vois un peu ? Si tu avais une baguette magique, là, quelle baguette tu donnerais à papa et maman pour justement réussir à te faire faire quelque chose que tu n'as pas spécialement envie de faire ?
Bah, en fait, bah, par exemple, si il me demande, je prends un exemple qui me vient.
Parle bien dans le micro, chérie. Ouais.
Je prends un exemple qui vient par la tête. Bah, en fait, par exemple, si on dit mange tes.
Ouais,
tes épinards.
Ouais.
Et bah, et que par exemple on veut pas, bah je me dis peut-être on pourrait par exemple au début expliquer gentiment, après s'il veut pas, bah on pourrait lui montrer par exemple le parent pourrait goûter et lui montrer que en fait bah lui il aime bien et vu que le parent il aime bien, bah je pense que l'enfant il va se dire ah bah si Si maman, elle aime bien, bah, peut-être que moi aussi, je vais aimer, donc je vais goûter.
Alors, montrer. Alors, toi, une de tes pistes, ça serait que le parent, il montre, en fait, ce qu'il dit.
Il donne l'exemple.
Il donne l'exemple, il te montre ce qu'il te demande de faire.
Oui.
Qu'il fasse pour que toi aussi, ça te donne peut-être envie de le faire ou pas le faire.
Oui, parce que, par exemple, quand t'es enfant, je pense que t'as envie de faire comme les grands, ils font. Mm. Par exemple, ma petite sœur... elle m'a vu, par exemple, faire... j'ai fait un travail en SVT et elle voulait faire comme moi. Elle a dit, ah, moi aussi, je veux faire de la SVT. Et bah, je pense que si, en fait, comme t'es enfant, et bah, t'as envie de faire comme les grands, en fait. Et du coup, si tu vois... Si ta mère, par exemple, elle te montre, par exemple, qu'elle aussi, elle mange et que finalement, c'est bon, tu vas dire, ah, moi aussi, je mange des épinards comme les grands, en fait, comme... comme maman.
Voilà pourquoi il faut donner la parole aux enfants.
Parfois, il faudrait presque dire les épinards sont réservés aux adultes.
ça donnerait envie, c'est sûr, finalement, que ça allait manger. On arrive à la fin. Anne, ton mot de la fin pour clôturer.
Non, moi, je suis d'accord avec elle. De toute façon, la vérité sort de la bouche des enfants. Et comme tu le disais, Benjamin, à juste titre, laissons-les nous surprendre. Il faut leur faire confiance de toute manière.
Bien sûr. Il n'existe pas de normes, en fait, en réalité. C'est juste ça. Et arrêter de vouloir nous mettre tous et toutes dans des moules, en fait, en réalité.
Je pense qu'il faut leur mettre un cadre bienveillant et sécurisé, surtout. Et voilà. Après, les laisser évoluer tout en regardant quand même ce qu'ils
font. Par un petit coin de la porte.
Voilà. Bah oui, on a quand même besoin.
Mais en leur faisant quand même confiance.
Oui, on a quand même besoin.
Eh bien, franchement, merci pour ces échanges. Il y avait tant à dire sur cette thématique. On aurait pu aller vraiment dans plein de recoins. L'idée, c'est quand même que tous et toutes, on puisse se questionner. Et justement, peut-être que c'est le moment de remettre en lumière qu'est-ce que l'autorité pour nous, comment on l'incarne et en quoi elle est utile pour nos enfants. Et est-ce que le fait d'obtenir de nos enfants ce qu'on le souhaite, nous, absolument, à tout prix, est-ce que c'est pas là que commencent les déviances, quelque part ? Merci à Mon Paris FM de nous avoir reçus. Merci à vous, les filles, d'avoir été là. Merci, Anne. Oh, toi, tu étais parfaite. La prochaine fois, je te veux en journaliste avec moi.
Merci, Ami, aussi.
Merci
super
à toi.
En voilà, haute, en animatrice haute.
Je confirme. Merci beaucoup.
Ben, top. Merci à vous aussi, à la maison, d'être fidèle. Merci encore et à bientôt. Ciao, ciao.